Bonjour, bienvenue à cette conférence débat sur le light novel, où on va nous faire mieux connaître ce nouveau format, cette nouvelle forme, ce nouveau genre venu du Japon, avec Guillaume Cap, donc, qui représente les éditions Ophelb, qui se sont lancées sur ce nouveau créneau cette année. Guillaume Cap donc, assure la communication, les relations presse et donc la présence sur les salons de plusieurs structures éditoriales qui sont liées entre elles par leurs choix éditoriaux.
Exact.
Donc, il y avait Taifu Comics et Ototo, donc, qui sont spécialisés dans les mangas, dans des sous-genres de mangas spécifiques. Et donc, il y a désormais Ophelb qui se consacre au light novel. Alors peut-être avant de nous parler du light novel, parlez-nous un peu de vous, parce que donc j'ai pas trouvé grand-chose sur vous, donc si vous pouviez nous parler un peu de votre parcours, hein, de ce qui fait que vous êtes aujourd'hui
je suis arrivé
ici.
À ce poste. tout d'abord, je pense que voilà, c'est important de dire que. Comme beaucoup de personnes qui travaillent dans ce milieu un peu de la culture japonaise, je suis également forcément un grand fan du Japon, de sa culture, que ça soit forcément donc des mangas, des séries animées, mais aussi de tout l'aspect un peu plus culturel du Japon, histoire, etc. Je suis issu un peu comme pas mal de personnes maintenant de ma génération, de la génération Club Dorothée. Donc j'ai connu cette culture japonaise, notamment le manga et les séries animées, par le Club Dorothée et forcément je suis tombé très fan à l'époque. Donc j'ai suivi jusqu'à la fin. Après, à partir du moment où ça s'est terminé, j'ai complètement abandonné en fait cette culture. Et je me suis intéressé à d'autres choses. Et c'est au début du lycée où j'ai rencontré d'autres personnes dans ma classe. Voilà, qui continuent à suivre, qui lisaient d'ailleurs, si je me souviens bien, Naruto et tout, qui suivaient sur internet, etc. Et on a commencé à discuter. J'avais un ami, moi, à l'époque, qui était un grand fan, qui achetait d'ailleurs les mangas, hein, les tout premiers, les versions j'ai lues des mangas. Donc qui m'a dit, mais vas-y, regarde, en plus il y a une série que t'adorais à l'époque qui s'appelait Olive et Tom. Il me fait, voilà, vas-y, tu vas adorer et tout. Achète les mangas, et j'ai commencé à acheter les premiers tomes, et puis à partir de là, je suis retombé en plein dans cette culture qu'on appelle pop culture japonaise, et j'ai pas arrêté depuis, donc voilà, depuis le début du lycée, je me suis de plus en plus renseigné sur cette culture, et au fur et à mesure des années, je me suis dit pourquoi pas avoir la chance de travailler travailler en fait dans ma passion, et je savais que c'était assez compliqué, donc pour me sécuriser, j'ai fait des études plutôt dans le commerce avec une spécialisation en communication. Et puis c'est à partir de ce moment-là en fait que j'ai commencé par le biais de stages à rentrer dans l'univers de l'édition. Donc j'ai fait plusieurs stages dans une librairie à Paris qui s'appelle le Manga Café. Donc par l'intermédiaire de cette librairie, j'ai commencé à faire beaucoup de salons, que ça soit à Paris ou en province. Et par l'intermédiaire de ces salons, je me suis fait plusieurs contacts, et notamment donc j'ai commencé à rentrer en contact avec les directeurs éditoriaux des éditions Taifu Comics, parce qu'à l'époque au Manga Café, je m'occupais notamment de la vente et de la mise en avant des mangas de Taifu, et notamment du genre yaoi. Donc voilà, c'est comme ça que je suis rentré en contact avec le directeur éditorial des éditions Taifu Comics à la fin de mes études. Donc je cherchais un travail forcément, et là j'ai commencé à envoyer des CV un peu partout dans toutes les maisons d'édition qui pouvaient exister, que ça soit en BD, en roman, en manga, parce que je voulais absolument travailler dans tout ce qui était la littérature, l'édition, et puis ce directeur est venu vers moi en me disant pour le moment on cherche pas forcément quelqu'un, mais peut-être pour des piges pendant un mois, pendant trois semaines, on aurait besoin de quelqu'un d'aide à un moment pour travailler sur les mangas, la mise en page, etc., la maquettisation, la fab. Et j'ai dit oui, hein, pourquoi pas. Et au bout d'un an, à faire différentes missions, il m'a dit on cherche quelqu'un pour la communication, pour la presse, la personne qui s'en occupait est partie, est-ce que ça t'intéresserait? J'ai dit banco. Et c'est à partir de ce moment-là que j'ai commencé à travailler pour Taifu Comics, après pour les éditions Ototo qui sont qui ont été créés quelques mois après mon arrivée. Et ensuite, donc il y a maintenant un peu plus d'un an, pour les éditions Ophelb. Donc j'ai vu, on va dire, la naissance un peu des éditions Ophelb. Et donc il m'a rappelé cette fois-ci pour me dire, bah écoute, on veut quelqu'un pour travailler pour les éditions Ophelb. Ce qu'il nous faut, c'est quelqu'un qui ait un pied dans l'univers roman, mais quelqu'un qui connaissait aussi très bien l'univers manga et qui soit en rapport avec les médias, notamment qui parlent de cette culture pop japonaise. Et donc il m'a proposé, et bah, j'ai dit aussi, bah banco, le projet m'intéresse, les light novels, je trouve ça génial, il faut que ça soit un peu plus connu. Et c'est comme ça que l'aventure, en fait, bah, mon aventure avec les éditions Ophelb a commencé, et que les éditions Ophelb se sont créées et ont vu leurs premières œuvres sortir en mars 2015, le 12 mars, si je me souviens bien.
C'est très intéressant parce que bon, ça montre que le arriver à travailler dans l'édition, c'est un mélange de persévérance et d'opportunités, voilà, qui se créent pas forcément là où on les attendrait, et qu'il n'y a pas un parcours classique tout tracé. Voilà, face, moi qui suis souvent face à des étudiants, étudiantes qui sont intéressés par ces questions-là.
Le plus important, c'est vraiment la passion et les relations, le réseau, en fait, ce qu'on appelle nous maintenant un peu dans le métier, c'est le réseau, les personnes qu'on connaît et qui peuvent nous mettre un pied dedans. C'est vrai que, notamment par le biais des stages, mais c'est vrai que tout ça, ça peut vraiment aider au-delà des études, parce que ce qu'on veut, notamment dans ce métier qu'est l'édition, c'est des personnes passionnées qui aiment leur travail et qui sont pas forcément là pour se mettre en avant ou pour d'autres objectifs financiers ou autres.
Alors, vous nous présentez le light novel, donc roman léger.
Voilà, le roman léger, traduction littérale. Alors après, nous, on a popularisé, on va dire, ce terme en disant tout simplement roman jeunesse, afin de, voilà, on va dire dans un premier temps, d'aborder de façon plus simple le public français. Tout simplement parce que roman jeunesse, roman young adulte, c'est connu, des genres qui sont connus un peu par tous les lecteurs. Et que light novel, voilà, ça pouvait, on pouvait se demander tout simplement ce que c'était, même si le terme novel est assez connu, le terme light, là, pose davantage de difficultés. Donc en gros, le light novel, c'est un genre alors qui est pas si ancien que ça au Japon, hein. Il est né, on va dire, au début des années, vraiment au niveau des années 60, 70. À l'origine, d'ailleurs, ce qu'on appelait light novel, c'était tout simplement des romans de gare. Donc romans de gare, pourquoi ? Parce que le format laissait tout simplement penser que c'était des romans, des ouvrages qui étaient très facilement transportables dans les transports en commun japonais. Donc on va vous faire parvenir des exemplaires, mais c'est un 3/4 poche, donc encore plus petit qu'un format poche. C'est tout léger, ça fait 200 pages en moyenne. Donc voilà, encore une fois, c'est très facile à mettre dans sa poche, à mettre dans un sac, très facile à lire aussi dans un métro ou dans un autre transport. Et surtout, c'est aussi une lecture, là c'est un peu le terme light, encore une fois, qui va être mis en avant, c'est une lecture très rapide. À la différence de ce qu'on peut avoir dans les romans occidentaux, le light novel, l'écriture, le style d'écriture des light novels est lui très direct et est moins romancé, beaucoup moins romancé. On va vraiment au plus simple, au plus essentiel. Il y a aussi, alors là c'est la langue japonaise encore une fois qui le veut, hein, c'est la façon dont il parle, il y a aussi énormément de répétitions dans les noms des personnages, dans les suffixes, dans les formules de politesse. Voilà, c'est très propre au Japon, donc forcément ça se retrouve dans les light novels. Donc voilà, c'est tout ça qui fait le light novel, c'est aussi un rapport à l'image qui est assez unique au Japon, dans le sens où les Japonais veulent vraiment, les auteurs japonais du moins, veulent vraiment plonger leurs lecteurs au cœur de leurs univers. Et donc même dans les light novels, il y a quand même des illustrations. Les illustrations qui sont à la fin et entre les pages, donc entre les chapitres, des illustrations à la fois couleur et noir et blanc. Et voilà, ce qui fait que l'illustrateur des light novels n'est pas forcément le scénariste. Voilà. Alors des fois, pour les light novels, l'illustrateur et le scénariste sont la même personne. Des fois, c'est deux personnes complètement distinctes. Et une chose à savoir, ce n'est pas parce que le light novel, ça représente qu'une vingtaine d'illustrations en soi, entre 10 et 20 illustrations, que l'illustrateur est mis en dessous du scénariste. Non, l'illustrateur et le scénariste, dans un light novel, sont deux personnes qui représentent 50% de l'ouvrage. Parce que les Japonais, de par leur culture de l'image, partent du principe que les illustrations ont la même valeur que le récit. Et ce n'est pas parce que c'est le récit qui a permis de créer ces illustrations que celles-ci doivent passer après. Non, c'est vraiment, voilà, les illustrations permettent de vendre l'ouvrage. Ce n'est pas parce que le récit est important et bien et de qualité que la saga va se vendre. Les illustrations participent à cette mise en avant et c'est pour ça que, voilà, scénaristes et illustrateurs sont mis, voilà, sont traités de la même façon et sont mis au même niveau. Donc là aussi, voilà, c'est quelque chose qui est très important au Japon et qui fait que, en tant que, quand nous, on a voulu adapter tout simplement ces romans, ces light novels en France, on ne pouvait pas se poser la question, par exemple, de dire, voilà, nous, on veut le récit, mais les illustrations sont trop typées manga, sont trop typées Japon, ça risque de poser un problème aux lecteurs de romans occidentaux, donc on ne veut pas des illustrations, on va en mettre d'autres. C'était impossible à faire, c'était vraiment, voilà, si on prend le récit, on prend également les illustrations, les deux sont indissociables. Voilà, c'est un autre critère très important pour les éditeurs de light novel et tout simplement pour le genre en lui-même. Voilà, le light novel, c'est un récit avec des illustrations.
Et c'est vraiment, ça vise le jeune public, parce que tu commençais par ça, par dire roman jeunesse.
Voilà,
le public au Japon est un public d'adolescents, de jeunes,
voilà,
adultes.
Oui, c'est à la base, hein, c'est le light novel. Alors, ça a été pour diversifier, on va dire, pour toucher un autre public. Les mangas, par exemple, et les séries animées sont plus pour un public de jeunes enfants, d'adolescents, etc. Le light novel, ça a été pour diversifier et pour agrandir une licence et pour toucher d'autres lecteurs à cet univers de la pop culture japonaise. Donc, à savoir que beaucoup de light novels sont des œuvres originales. Nous, chez Ofelb, il est important de préciser qu'on ne publie que des œuvres originales. Donc, même si elles ont été connues en France de par le passé par un manga ou par une série animée, le roman, même s'il est venu après en France, c'est vraiment l'œuvre originale. Alors après, c'est adapté pour la jeunesse, c'est adapté pour les young adultes. On va dire que le public, en gros, le cœur de cible pour un light novel, c'est de 12 ans à 25 ans. Voilà, si je tape vraiment très large, mais ça peut vraiment aller jusqu'à 30 ans, 35 ans, 40 ans. Comme on peut le voir pour le manga, c'est la même évolution pour un light novel, en fait. C'est les mangas, on peut en lire aussi bien à partir de 8 ans que jusqu'à 40, 50, 60, 65 ans. Voilà, il y en a vraiment pour tout le monde. Le light novel, c'est un peu la même chose. Et ça tend justement à se développer de plus en plus vers un public de plus en plus âgé, parce que c'est la volonté des éditeurs japonais. Les éditeurs japonais travaillent essentiellement beaucoup sur le cross-marketing. C'est tout simplement pour faire davantage connaître une licence, mais c'est aussi pour toucher de nouveaux lecteurs, comme on peut un peu avoir en France avec les romans classiques et les romans poche. Les deux ne vont pas forcément se cannibaliser, c'est simplement les romans en poche viennent pour essayer de toucher un autre lectorat. C'est exactement la même façon de penser pour les éditeurs japonais, sauf que voilà, ils touchent vraiment tous les formats, aussi bien le manga, alors ça commence par le roman, après ça se développe en manga, en série animée, ça peut être le jeu vidéo, ça peut être des jeux de société, ça peut vraiment toucher tous les formats qui peut y avoir. Les Japonais sont très forts à ce niveau-là, ils ont une imagination qui est assez débordante pour tout ce qui est communication, marketing, et c'est aussi une stratégie qu'on a envie de mettre en place avec les éditions Ofelb. C'est pour ça que quand on a des licences, jusqu'à maintenant, on a choisi que des licences qui étaient déjà connues en France, par une série animée, par un manga, ou par même un jeu vidéo. Et à chaque fois qu'on a la possibilité, on travaille avec les éditeurs de ces adaptations, donc de ces différents formats, pour donner beaucoup plus d'importance, tout simplement, à la licence en soi, mais pour permettre à ces œuvres originales, donc à ces light novels, de se faire davantage connaître en France. Donc voilà, c'est vraiment pour tout public.
Oui, c'est ça, ça déborde le public jeunesse. Et bon, pas forcément ce qu'on a spontanément en tête avec le roman jeunesse occidental.
Voilà,
ça ressemble davantage au public du manga, comme tu le disais.
On a plus une classification manga, dans le sens où voilà, ça peut vraiment tabler sur tous les âges. Et après, ça dépend vraiment, encore une fois, comme j'aime à le dire, ça dépend de la maturité des lecteurs, et ça dépend aussi des affinités qu'ont les lecteurs. C'est pas parce qu'un titre va parler par exemple de fantasy et de jeux vidéo qui va être pour les lecteurs de 12, 15 ans, 20 ans, parce que c'est à cet âge-là qu'on joue aux jeux vidéo et qu'on est fan. Non, on peut très bien voir des personnes de 30, 40 ans qui sont fans de jeux vidéo et qui vont adorer par exemple Sword Art Online ou Log Horizon. Là où par exemple Spice and Wolf va parler plus de religion et de commerce, on peut se dire religion et commerce, c'est un peu plus pour un public de 20, 25 ans, 30 ans, même 35-40 ans. Non, moi, il y a une lectrice, une jeune lectrice qui a 13 ans, 14 ans. Elle est véritablement fan de Spice and Wolf. Elle adore cet univers. Et encore une fois, c'est ce qui montre que ça dépend de la maturité du lecteur et de l'affinité qu'on peut avoir avec certains genres.
Alors, tu as déjà abordé largement ces questions, mais est-ce que tu peux revenir donc sur les liens, comment ça se passe entre les différents médias de la J-pop,
oui.
Les liens avec le manga, les liens avec l'animé, est-ce qu'il y a des light novels qui sont adaptés, et les liens avec le jeu vidéo, puisqu'on a quand même deux de vos titres,
de nos titres qui
parlent de l'univers du jeu vidéo.
Alors, les liens, tout simplement, il faut savoir déjà que la plupart du temps, ce n'est pas parce qu'une licence, par exemple Sword Art Online, existe en manga, en light novel, en jeu vidéo, que c'est édité par la même entreprise au Japon. C'est le cas, par exemple, pour le manga et la série et le light novel de Sword Art Online, ils sont tous les deux édités par une maison d'édition qui s'appelle Kadokawa Corporation au Japon. Mais par exemple, le jeu vidéo, c'est Namco Bandai qui s'en occupe, et l'animé, c'est Aniplex qui s'en occupe. Donc voilà, c'est vraiment très différent. Après, c'est simplement un achat de droits qui s'est passé au Japon, Kadokawa qui a vendu les droits à un éditeur, à un studio, pareil pour les jeux vidéo, etc. Donc après, comment ça se passe en France? Bah, nous en France, tout simplement, une fois que, par exemple, on va encore une fois prendre l'exemple de Sword Art Online avec les light novels, l'avantage qu'on a, c'est que déjà on avait un lien avec le manga, puisque, comme j'ai pu le dire au début, je travaille avec les éditions Ototo, donc le lien était facile à faire, le directeur éditorial pour les deux maisons d'édition elles-mêmes, donc forcément la cross marketing s'est mis facilement en œuvre. Après, là où ça devient plus compliqué, c'est avec les autres éditeurs. Certains éditeurs peuvent être totalement ouverts à cet esprit de cross-communication, cross-marketing, pour mettre en avant la licence et se dire bah, c'est génial, je vais communiquer avec l'éditeur du roman, ça va buzzer sur la licence, et je vais faire moi de mon côté plus de ventes sur le jeu vidéo, et lui de son côté va faire plus de ventes sur le roman. Quand c'est comme ça se passe, c'est génial, mais c'est pas forcément toujours le cas, parce qu'après, bon, voilà, chaque maison d'édition a ses prérequis, a sa façon de travailler. Encore une fois, les ayants droit ne sont pas forcément les mêmes. Donc même si l'éditeur français est d'accord, peut-être que la maison mère au Japon va dire bah, écoute, moi je suis pas forcément d'accord, j'ai pas envie que tu travailles avec l'éditeur du roman français. Voilà, pour le moment, ça c'est pas forcément on n'a pas eu un cas comme ça, mais voilà, ça peut tout à fait arriver. Après, par exemple, on a fait avec le roman, on a fait un partenariat avec Namco Bandai en disant que voilà, il y avait le jeu vidéo qui sortait, et lui de son côté a fait la communication sur le roman. De même avec les mangas, il y a eu une cross communication qui s'est fait avec un échange de visibilité. Il y avait un autocollant sur le dernier jeu Sword Art Online qui est sorti en France en novembre dernier, et de notre côté on avait fait de la publicité sur les romans et sur les mangas. Donc voilà, ça se passe encore une fois très bien. Pareil avec le diffuseur de l'animé sur internet qui s'appelle Wakanim, l'entente jusqu'à maintenant s'est très bien passée. Ils ont fait de la communication sur leur site internet, nous on a fait de la communication dans les ouvrages quand c'était possible, de même pour Log Horizon. Voilà, ça prend du temps toujours à faire, parce que les éditeurs français, encore une fois, ne peuvent pas traiter ensemble. On peut traiter ensemble, on peut se mettre d'accord sur un projet, mais il faut toujours qu'on demande la validation des éditeurs japonais. Ça, c'est quelque chose qu'on ne peut pas, passer outre. C'est l'éditeur japonais qui reste maître, quelle que soit notre stratégie marketing ou communication. On peut avoir des idées, ça peut être même des très bonnes idées des fois, mais bah, c'est pas forcément pour ça qu'elles vont être acceptées au Japon, parce que bah, tout simplement, voilà, il y a des différences, le marché n'est pas le même, des fois il y a des incompréhensions, tout simplement. Des fois, il peut y avoir aussi le cas avec des petites guéguerres internes entre des responsables, entre des maisons d'édition. Voilà, c'est le marché professionnel, on va dire, qui veut ça. On n'est pas maître de tout, mais en tout cas, la plupart du temps, les Japonais, en tout cas, pour Sword Art Online, veulent qu'on travaille vraiment main dans la main avec tous les ayants droit français. C'est d'ailleurs pour ça que, par exemple, à Japan Expo, on va avoir une grande conférence avec tous les éditeurs de Sword Art Online, où on va annoncer divers programmes, diverses actualités, peut-être qu'il y aura des avant-premières. Voilà. Mais en tout cas, voilà, c'est en train d'être mis en place, et c'est vraiment l'éditeur japonais, les ayants droit japonais qui nous ont demandé ça. Voilà, c'est, ils veulent vraiment qu'on travaille main dans la main.
Et c'est pas peut-être plus difficile à la limite pour vous de d'introduire des romans qui ont d'abord été connus comme manga. Alors évidemment, vous bénéficiez de leur exposition préalable, c'est-à-dire ce sont des noms qui sont connus, des univers qui sont déjà familiers, mais est-ce que les lecteurs sont les mêmes? Est-ce qu'ils sont prêts à lâcher le manga pour le roman? Enfin, pas forcément à lâcher le manga, mais à lire les deux en même temps. Est-ce qu'ils s'y retrouvent?
Alors, ça dépend. On a vraiment, ça dépend vraiment des cas. En gros, quand même, hein, on est vraiment très suivi parce qu'on a l'avantage, encore une fois, sur les licences qu'on a prises, vu que c'est des licences fortes, d'avoir des fanbases qui sont fortes et qui sont vraiment fans, tout simplement. Et donc, ils suivent tout ce qui sort tout ce qui peut sortir sur ces sagas, sachant que même si les histoires, les récits peuvent paraître identiques. Comme chaque adaptation est édulcorée et compactée. Et l'avantage qu'on a avec les romans, c'est encore une fois, c'est des œuvres originales. Et c'est pour ça qu'on apporte une réelle importance à publier des œuvres originales, parce que c'est celle qui est la plus, tout simplement, la plus complète. C'est en tant que fan, on a envie de découvrir l'œuvre originale. Et ça, il n'en démorde pas. Et c'est aussi l'avantage qu'on a en tant qu'éditeur du roman. Alors après, bien sûr, là où ça peut poser quelques complications, c'est on a des visuels qui sont très typés, alors je dirais pas manga, c'est très typé Japon, tout simplement, parce qu'après, dire que le style de dessin est un style manga, c'est pas vrai, c'est simplement le style de dessin qu'ont les Japonais qui s'est développé au Japon, comme on peut avoir un style de dessin qu'on pourrait qualifier de franco-belge, le style de dessin comics, pour distinguer certaines littératures de par le monde. Mais c'est un style de dessin très japonais, donc qui est connoté manga en France. Et il y a beaucoup de personnes, notamment aux Imaginales, des jeunes qui viennent nous voir, qui font « Oh, c'est le manga, Sword Art Online !» et tout, et là, qui ouvrent et qui disent « Ah, il y a un peu trop d'écriture pour que ça soit le manga, c'est bizarre. » Et là, on est obligé de dire « Eh ben non, c'est un roman. » Et là, ils nous disent « Ah là là, mais c'est une adaptation du manga !» Non, ce n'est pas une adaptation du manga, c'est l'œuvre originale. Et là, ils font « Ah ouais, mais c'est génial !» Et là, c'est à partir de là, en fait, qu'il y a une certaine curiosité qui commence à apparaître, parce que ils ont envie de savoir pourquoi, comment ça se fait qu'ils connaissaient pas alors que c'est l'œuvre originale, pourquoi il y a eu le manga avant, pourquoi il y a eu la série animée avant, qu'est-ce que le roman a de plus par rapport à ses adaptations. Donc voilà, c'est tout un processus qui après se met en route, et là où on est obligé de tout simplement de présenter au maximum à ces personnes qui sont vraiment curieuses. Mais c'est vrai que forcément il y a un petit amalgame qui est fait, parce que de par le fait que ça soit les mangas et les séries animées qui se soient fait connaître en premier en France, le réflexe qui est logique, on peut pas le reprocher, c'est c'est les œuvres originales, c'est pas le roman le roman est qu'une adaptation, alors qu'en fait non. Mais après, l'avantage qu'on a, c'est que c'est un processus qui est assez connu en Europe, en Occident. Les romans qui sont adaptés en film, qui sont adaptés en BD ou quoi que ce soit. Donc après, c'est clair que quand on prend l'exemple d'œuvres phares comme, je sais pas, Harry Potter, Le Seigneur des Anneaux ou quoi que ce soit, tout simplement, après, ils comprennent et ils voient très bien que c'est pas parce que ils ont vu le film du Seigneur des Anneaux qu'ils ne peuvent pas lire le roman. Au contraire, d'ailleurs, parce que ça serait dommage de se limiter à ça. Mais voilà, ça peut vraiment leur apporter davantage d'informations. Alors après, encore une fois, c'est pas pour ça qu'ils vont abandonner les autres formats, parce que on dit aussi que des fois, ces adaptations peuvent être complémentaires. C'est aussi quelque chose de très sympa de pouvoir comparer différents formats et dire ça a été fait comme ça, pourquoi ça a été fait de cette façon, pourquoi l'héroïne de Spice and Wolf est dessinée de telle façon dans le manga, pourquoi elle est dessinée de telle façon dans le roman, est-ce que c'est pas adapté, est-ce que c'est pas une adaptation lectorat. C'est toutes ces questions qui peuvent être très intéressantes à développer, et c'est aussi ça qui fait la force, j'ai envie de dire, de l'imaginaire, tout simplement, de la littérature de l'imaginaire. C'est qu'en général, les lecteurs sont très curieux, et dès qu'on titille leur curiosité, et ben là, c'est parti, et ça démarre, et là, ils ont envie de découvrir.
Justement, à propos du visuel et des différences d'illustration, moi, je me posais la question de savoir dans quelle mesure c'était adapté en manga par sous la supervision des mêmes illustrateurs, la même équipe,
Les illustrateurs et les scénaristes, quand on leur apprend que leur roman va être adapté en manga ou en série animée, jouent un rôle très important de supervision, tout simplement parce que l'éditeur qui va adapter en manga ou en série animée a vraiment envie que le roman d'origine soit adapté au mieux. Donc là, d'une part, il va y avoir le scénariste qui va donner sa validation sur le scénario, sur la mise en place, le découpage tout simplement du manga ou de la série animée. Et après, il y a l'illustrateur. Alors ça, par contre, on n'en démord pas. L'adaptateur, donc soit le graphiste, on va dire l'équipe de graphistes qui travaille sur la série animée, soit le mangaka qui va adapter le roman, eux doivent formellement respecter le design tout simplement du roman, le graphisme du roman. Alors après, bien sûr, comme j'ai dit pour Spice and Wolf, il peut y avoir une façon de dessiner le personnage peut-être un peu plus enfantin dans un peu plus naturel, insouciant dans le manga ou dans le roman, mais par contre voilà, on peut pas démordre. Par exemple, Holo dans Spice and Wolf, elle est représentée avec des oreilles de loup. Le dessinateur du manga, il a dû faire des oreilles de loup, il a pas pu faire des oreilles de chat par exemple. C'est vraiment très important. Sword Art Online, l'épée, la façon dont elle est dessinée, elle doit être dessinée de la même façon dans le manga, dans l'anime. Après, par contre, les traits de dessinateur, quand on est un dessinateur, on a ses traits qui sont propres, qui sont caractéristiques. Donc là, forcément, on peut pas en démordre. Mais par contre, voilà, les principaux critères du personnage doivent être respectés et c'est une nécessité. Après, pour le scénario, encore une fois, comme j'ai dit tout à l'heure, ça dépend. Si le mangaka, si l'éditeur veut rester le plus fidèle possible à l'œuvre d'origine, il demande la supervision du mangaka. Mais après, des fois, il y a des éditeurs tout simplement qui disent « moi, je vais faire une adaptation libre ». Alors, tout simplement, là déjà, il demande l'accord de l'éditeur du roman, il demande l'accord de l'auteur. Et si l'auteur est d'accord, et l'éditeur également, la maison d'édition de manga ou le studio d'animation va faire une adaptation pour avoir forcément une supervision du scénariste. Après, voilà, là c'est le problème qui peut se poser pour les fans, c'est une adaptation qui est libre, donc elle ne respecte pas le format original. Donc des fois ça peut être très bien, ça peut être une très bonne adaptation qui peut apporter quelque chose de nouveau parce qu'il va développer d'autres éléments, mais alors des fois ça peut être une véritable catastrophe. Dans les deux cas ça s'est posé, et voilà, c'est aussi ce qui fait un peu c'est ce qui fait un peu tout l'intérêt en tout cas de ce travail d'adaptation, et c'est ce qui fait aussi que nous on se renseigne énormément quand on essaye de sortir une œuvre originale en France. On se renseigne sur les adaptations qu'il y a pu y avoir en France, est-ce qu'elles étaient de qualité, quel a été le succès en France, est-ce que ça a été bien apprécié par le public, voilà, tout ça, et notamment par la fanbase. Voilà, tout ça c'est des choses auxquelles on fait très attention avant de se lancer, en tout cas de faire des demandes de droit et avant donc de l'adapter en France.
Quels sont les sous-genres, alors d'abord au Japon, puis après on en viendra peut-être aux licences, quels sont les sous-genres représentés dans le light novel, enfin les genres représentés, est-ce que c'est la même division que pour les mangas, donc par type de public ou par type d'histoire, shonen, yaoi, etc., ou est-ce que c'est plus comme on en a l'habitude, notamment ici aux Imaginales, SF, fantasy? Ou est-ce que les deux critères se mélangent?
Alors on va moins avoir quand même un peu ce critère, ce dispatch shonen, shoujo, seinen, yaoi, etc. On va moins l'avoir. Forcément, après, voilà, quand on va avoir un roman, un light novel boys love, donc ce qu'on appelle yaoi au Japon, forcément, là, ça va être quand même mis dans une collection à part. Et il va y avoir cette distinction. Après, par contre, quand on parle de seinen, shonen, shoujo, c'est un peu plus, voilà, c'est un peu plus, un peu moins quand même mis en avant. L'avantage, alors, par contre, il y a quelque chose qui est très spécifique au Japon, c'est que les romans sont prépubliés dans des magazines de prépublication. Donc chaque magazine de prépublication a son public. Il va y avoir celui qui est spécialisé pour les, on va dire pour les seinen, celui qui est spécialisé pour les shoujo. Shoujo, on va dire que c'est un peu plus tout ce qui est romance. Ça, à la base, c'est censé être un public pour filles. Voilà, c'est si on reste très comme ça, très car très, très strict, on va dire, dans le sens du terme. Et shonen, c'est plus pour le public enfant, voilà, pour les enfants, plus garçons en plus. Et voilà, il y a ces magazines de prépublication. Après, maintenant, de plus en plus au Japon, il y a tout simplement des magazines de prépublication spécialisés dans le light novel. Et là, voilà, c'est ce qui permet justement de moins catégoriser un light novel et de dire tout simplement, voilà, bah, c'est un light novel. Après, libre à vous de le catégoriser là où vous voulez. Par exemple, on a un éditeur qui vient de qui s'appelle donc Alpha Police, donc un éditeur de light novel à la base, qui publiait beaucoup d'œuvres, alors que ça soit fantasy, romance et tout. Voilà, il n'avait pas de distinction d'ailleurs entre ces genres, mais là, mais c'était davantage classifié en jeunesse. Voilà, lui-même nous a dit, voilà, mes œuvres, mes premiers light novels sont classifiés en jeunesse. Et maintenant, on a pu voir que depuis, ça a été lancé en fin d'année 2015, début 2016, il a ouvert une nouvelle collection qui cible davantage un public young adulte. Donc voilà, lui aussi, maintenant, au Japon, en fonction des éditeurs, on a aussi, voilà, c'est cette distinction plus jeunesse, young adulte, qui se met en place. Et après, il y a la distinction plutôt par genre, donc on va avoir fantasy, science-fiction, tranche de vie, romance boys love, etc. Voilà, c'est plutôt dans cette classification que vont se lancer les éditeurs. Encore une fois, ça dépend là encore de la stratégie de l'éditeur. Il y en a qui vont rester très traditionnels, il y en a comme Alpha Police qui est un jeune éditeur qui va avoir une ouverture, on va dire, d'esprit un peu plus effectif, quoi, et qui va se dire, bah voilà, je vais rester moins tradit et je vais faire plutôt jeunesse, young adulte, et après libre à mes lecteurs de penser ce qu'ils veulent.
Et donc ça ne se limite pas au genre de l'imaginaire,
ça se limite, voilà, on a fantasy, on a science-fiction, donc là c'est, on va dire, on va être vraiment sur l'imaginaire, mais après ça va être aussi de la romance, ça va être très tranche de vie. Donc nous, ce qu'on appelle tranche de vie, c'est des mangas plus ce qu'on va appeler qui parle plus de problèmes sociaux ou de sur la culture japonaise, les relations, voilà, c'est voilà, tout simplement on va suivre la vie d'un protagoniste qu'on va voir évoluer au fur et à mesure des tomes, donc dans sa vie, que ça soit dans sa vie amoureuse, dans sa vie au travail ou dans sa vie dans la vie de tous les jours. Et voilà, c'est vraiment, et voilà, ce thème, cette thématique là va permet aux auteurs de parler de problèmes sociaux au Japon. Donc on va parler dans un premier temps peut-être de la déscolarisation, du harcèlement, on va pouvoir parler des problèmes de certains handicaps. Voilà, c'est des thématiques qui sont assez fortes, qui se développent de plus en plus au Japon, parce que la société japonaise fait que quand on est fan de cette culture pop japonaise, on a une vision très idéaliste du Japon, mais malheureusement, il n'y a pas que ce bon côté de la culture pop japonaise. Et de plus en plus maintenant, des auteurs et des éditeurs ont envie de parler de ces problèmes sociaux et ont développé ce genre qui est la tranche de vie, le slice of life. Et voilà, des auteurs profitent de ce genre pour parler de thématiques très fortes. On va avoir aussi des romans plus qui parlent plus de l'histoire. On va avoir, alors là, dans le roman, ça existe aussi, mais en light novel, un peu moins, mais vraiment très plus politique, on va dire. Ce qu'on peut avoir, qui se développe de plus en plus d'ailleurs en manga, c'est-à-dire, par exemple, on a eu depuis un an, on a beaucoup de mangas qui sortent et qui parlent des problèmes de pollution, des problèmes sur Fukushima, par exemple. Alors, c'est des thématiques qui existent encore assez peu dans le light novel, parce que tout simplement, le light novel se développe, mais ça va venir. Il y a des auteurs qui travaillent dessus. Tout simplement, voilà, il faut le temps au genre de se développer. Et pour le moment, voilà, on reste vraiment, en tout cas, sur la tranche de vie, l'historique, la religion aussi, plus qu'est sur le monde un peu de, par exemple, des divinités japonaises qu'on appelle yokai, etc. Voilà, c'est vraiment très, très diversifié, tout comme le manga, tout comme on peut avoir dans la littérature de l'imaginaire occidental, c'est aussi diversifié, sauf que, encore une fois, il y a les spécificités qui sont liées à la culture japonaise et les spécificités qui sont liées à la culture française occidentale qu'on peut avoir chez nous.
Et alors vous, qu'est-ce que vous avez choisi? Voilà, expliquez-nous vos choix pour ces premiers titres lancés en France par Ophelbe pour faire découvrir au public français cette nouvelle forme.
Cette nouvelle forme, nous on s'est lancé sur un des genres qui est le plus apprécié, on va dire, par le lectorat jeunesse, par le lectorat young adulte, un genre qui se développe de plus en plus, c'est la fantasy, l'imaginaire, tout simplement parce que d'une part, c'est mine de rien dans ce genre-là qu'il y a le plus de choix au Japon. C'est aussi le genre qui est le plus développé en France dans les autres médias liés au Japon, donc que ce soit les séries animées ou les mangas. Et c'est aussi forcément, de par nos affinités, les affinités qu'on a dans notre maison d'édition. Et voilà, donc on a vraiment voulu, en tout cas, se tabler dans un premier temps sur la fantasy, donc avec Sword Art Online, avec Log Horizon, avec Space and Wolf, mais avec la volonté de montrer toute la diversification, toute la diversité du moins qu'il peut y avoir dans cette fantasy. Donc on va pouvoir parler de jeux vidéo avec Sword Art Online et Log Horizon, de voyages initiatiques qui met en avant des thèmes comme le commerce et la religion avec Space and Wolf, Danmachi qui va revisiter toutes les divinités de diverses mythologies, que ça soit grecque, romaine, Amérique du Sud, nordique, etc. Donc voilà, c'est très divers. Et même si vous pouvez me dire, oui, mais Log Horizon et Sword Art Online, c'est quand même tous les deux sur la thématique des jeux vidéo. Donc niveau diversité, c'est pas ce qu'il y a de mieux. C'est vrai, mais justement, c'est aussi ça le principe d'avoir publié ces deux œuvres, c'est de montrer dans une même thématique, deux œuvres peuvent être très différentes. Parce que l'approche qu'on a dans Log Horizon et dans Sword Art Online est totalement, encore une fois, totalement différente sur l'univers des jeux vidéo et des MMORPG, dans le sens où dans Sword Art Online, ça va être plus un survival game. C'est-à-dire qu'on a des joueurs qui sont enfermés dans un jeu vidéo, mais qui vont chercher à s'échapper parce que s'ils meurent dans ce jeu vidéo, ils meurent dans la vraie vie. Là où Log Horizon, ça va être encore une fois donc des joueurs qui sont enfermés dans un jeu vidéo, sauf que ces joueurs, ils n'ont aucun indice sur pourquoi ils sont dans le jeu vidéo, comment ils peuvent s'en échapper. Donc qu'est-ce qu'ils vont décider de faire? Ils vont décider de faire de ce jeu vidéo leur réalité. Donc ils vont décider de réaliser ce qu'ils ont toujours rêvé d'être, ce qu'ils ont toujours rêvé de faire. Et donc voilà, c'est là que les deux œuvres se distinguent complètement parce que forcément le développement est totalement, elles ont un développement totalement opposé, elles ont une vision totalement différente de la vie virtuelle. Mais par contre, l'avantage qu'ont ces deux œuvres, c'est qu'encore une fois, les auteurs ont voulu parler d'un problème de société au Japon, qui est la désociabilisation d'une jeunesse qui a du mal à se retrouver dans cette société très stricte, très codifiée. Et de nombreux jeunes sont devenus un peu ce qu'on appelle le phénomène hikikomori, c'est-à-dire s'enferment chez eux et n'ont plus aucun contact avec tout simplement la société, avec de même leurs parents. Vraiment, et voilà, la porte de leur chambre devient la porte de leur monde et plus personne ne peut y rentrer. Et les auteurs, conscients de ces problèmes, ayant peut-être même vécu ces problèmes, ont décidé de montrer que ces jeux vidéo, ces MMORPG qui sont souvent décriés, que ce soit au Japon mais aussi un peu en Occident, peuvent justement aider ces jeunes parce que c'est comme un peu le phénomène des réseaux sociaux. Forcément, ça a des inconvénients, ça a des points négatifs, mais ça a aussi des points positifs dans le sens où ces réseaux, ces jeux vidéo peuvent permettre de rencontrer d'autres personnes, peuvent permettre de rencontrer des personnes avec lesquelles on a des points communs, qui habitent dans une autre ville, dans une autre région, dans un autre pays, et que grâce à ces jeux vidéo, on peut tisser des liens sociaux, notamment avec d'autres personnes qu'on n'aurait jamais pu connaître, et que ces liens peuvent nous pousser à retrouver des forces, à retrouver une certaine motivation, à revivre en société, à retenter l'aventure, on va dire, de la vie en société. Donc voilà, c'est une thématique qui est très forte et que ces deux auteurs, en tout cas les deux auteurs de Log Horizon et de Sword Art Online, ont voulu mettre en avant. Donc c'est vraiment, encore une fois, des thématiques qui peuvent être proches mais qui sont à la fois très 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 très, très différentes, et c'est un peu toute la force des light novels, c'est que c'est un genre qui est très diversifié même dans la fantasy, et c'est un genre qu'on a envie de faire connaître en France, et c'est pour ça qu'on va sortir Danmachi qui est complètement très différent, en tout cas des trois œuvres qu'on a sorties jusqu'à maintenant, et qui va donner un nouveau souffle à ce genre, avec grâce à sa comédie, à sa fraîcheur, à grâce au fait aussi qu'il y ait ce rapprochement que peuvent effectuer les lecteurs avec ces divinités qu'on a déjà connues dans certains films, dans certains romans chez nous, et qui va, voilà, ils vont redécouvrir par exemple le personnage de Gilgamesh qui est un dieu qu'on a pu voir dans de nombreux films, dans de nombreux romans, et là dans Danmachi, il a une personnalité qui est en tout cas très originale, et ça mérite d'être découvert.
Oui, je le découvrirai avec plaisir, parce que donc ça, on a davantage un rapprochement possible avec Spice and Wolf, où on est également sur de la mythologie japonaise.
Exactement, voilà. c'est de la mythologie japonaise, mais dans un univers qui peut être proche de l'Occident, du Moyen-Âge occidental. Mm. Donc c'est aussi là, voilà, c'est cette force qu'ont les auteurs japonais à rapprocher, à lier toutes les cultures entre elles. C'est-à-dire qu'ils ne vont pas se limiter à leur culture, à leur univers et à l'histoire du Japon, non. Ils vont essayer d'aller chercher, de puiser leur imagination plus loin, en prenant à la fois à la culture européenne, à l'Europe, à l'histoire de l'Europe, à l'histoire de l'Amérique, à l'histoire de l'Afrique, du Moyen-Orient, etc. Voilà, ils sont vraiment... une fois qu'ils se lancent dans une œuvre, ils s'y lancent à fond, ils font des recherches, et c'est aussi ça, j'ai envie de dire, la force des auteurs japonais, c'est qu'ils ne sont pas auto-centrés sur eux-mêmes et sur l'histoire de leur pays, c'est que non, ils sont très ouverts. Malgré le fait qu'on puisse penser quoi, là, au final ils travaillent énormément, donc ils sont dans leur petite chambre ou dans leur petit studio et tout, c'est vrai qu'ils sortent pas beaucoup en l'occurrence quand ils sont en période d'écriture, mais avant ça ils ont fait des recherches, ils partent en voyage, voilà, il y a vraiment un très très gros travail d'investigation qui a été fait notamment par l'auteur de Spice and Wolf, qui a passé un bon temps de sa vie sûrement dans les bibliothèques d'après ce qu'il nous a dit quand il est venu en France.
Vous voulez publier deux volumes de romans, voilà, à chaque fois.
Voilà.
Alors, du coup, combien de volumes français à prévoir?
Alors, on prend des séries, des sagas pour le moment qui sont pas très longues non plus. Donc, même si le nombre de tomes au Japon peut faire peur, pour le moment, on n'a pas envie de dépasser le nombre de 10 tomes français. Donc, l'avantage, c'est qu'encore une fois, voilà, c'est un tome français rassemble deux tomes japonais. Donc, ce qui permet de réduire le nombre de volumes à publier. Mais en plus de ça, l'avantage, c'est qu'on essaie de garder une cadence de publication qui est assez rapide, sachant que pour cette collection-là, qu'on appelle donc la collection classique, qui rassemble deux tomes japonais en un tome français, on a un rythme de publication de 6 mois entre chaque volume. Pour la nouvelle collection donc, que va inaugurer Danmachi le 30 juin, on est sur une collection donc, qui fait un tome japonais, un tome français. Donc là, encore une fois, on a fait attention à que ce ne soit pas des séries à rallonge. Mais on va partir sur... Ça nous permet d'avoir un rythme de publication qui est beaucoup moins long. Donc on va partir sur un tome tous les 3-4 mois. Ça nous permet aussi de diversifier notre ligne éditoriale. Là où dans un premier temps, je disais qu'on s'était focalisé sur la fantasy, grâce à la collection qu'on va appeler Hélène Light Novel, on va pouvoir se lancer dans la... Continuer sur la fantasy, bien évidemment, mais toucher la science-fiction, toucher donc la tranche de vie, la romance, le côté historique, le côté plus traditionnel. Voilà, on va vraiment ça permet vraiment d'étendre et d'élargir notre ligne éditoriale et de faire connaître, encore une fois, toute la diversité culture des light novels, de ce genre light novel, mais toute la diversité également de la culture pop japonaise. Donc autre petit bonus par rapport aux œuvres de la collection classique, c'est qu'on se rapproche un peu plus, on fait un petit clin d'œil au format japonais avec ces rabats qu'on a rajoutés qui permettent tout simplement d'être un peu plus fidèle, on va dire, au format original. Bon, après, on espère un jour peut-être pouvoir sortir les light novels sous leur petit format, donc le 3/4 poche. Pour le moment, c'est encore un peu trop tôt en France, après avoir discuté avec beaucoup de libraires, bibliothécaires et documentalistes. Ils trouvent le format très mignon,
mais on serait
très
pas
curieux,
le ranger.
Mais voilà, ils auraient énormément de mal à savoir. Ils ont encore du mal à savoir où le placer, comment le vendre au lecteur. C'est encore un peu trop tôt, mais j'ai envie de dire, j'espère en tout cas que les light novels vont suivre un peu le même chemin. La même histoire qu'ont pu avoir les mangas en France, c'est-à-dire que même si nous maintenant le manga on le connaît dans son format actuel, c'est-à-dire le format sens de lecture japonais, format standard, donc qui est le 12.5 par 17 cm, il faut savoir qu'à la base le manga, les tout premiers qui sont sortis, c'était publié en sens français, format BD.
Donc, de nombreux tomes en même temps.
Voilà, c'était de nombreux tomes en même temps. Voilà, c'était vraiment... voilà, il a fallu passer par toutes ces étapes. Donc, on est passé au format BD. Après, on est passé en format japonais, mais toujours sens de lecture français. Et après, donc, on a eu les fameux mangas, donc avec couverture, jaquette par-dessus, sens de lecture japonais. Mais bon, il a fallu une petite dizaine d'années pour arriver à... Et même un peu plus, pour arriver à... au format original japonais quoi. Donc on espère que ça ira plus vite pour le light novel. C'est aussi pour ça qu'on fait énormément de communication, c'est pour ça qu'on est aussi énormément présent sur les salons, qu'on essaie de communiquer au maximum pour le faire connaître très rapidement, pour instaurer ce genre dans toutes les bibliothèques, librairies,
aller plus vite.
Voilà, on a vraiment envie d'aller plus vite parce que bon, je me dis que voilà, j'ai pas envie d'attendre 10 ans. Peut-être qu'à cet âge-là, voilà, dans 10 ans, je serai dépassé, que je comprendrai plus les lecteurs et tout. Et j'ai pas envie d'attendre quoi. J'ai vraiment envie de participer au développement et de voir le light novel publié dans ce format original. Je dis ça pour moi, mais voilà, en tout cas dans notre maison d'édition, on a vraiment tous envie. Parce que ça voudra dire que Light Novel a formidablement bien fonctionné en France, est connu maintenant quasiment partout et par tous les lecteurs. Et c'est aussi le projet qu'on a. Et comme autre projet, forcément, c'est un peu le rassemblement des lecteurs. Comme j'aime à le dire, le Light Novel, c'est un peu un roman, ce qu'on appelle, on a envie de faire tout simplement le pont entre le lectorat manga et le lectorat roman. On se dit, comme j'ai dit au début, dans notre maison d'édition, on est fan de manga. On est des lecteurs de romans, on a su rassembler nos deux passions et on a su faire le lien entre ces deux littératures. Et on trouve dommage qu'encore aujourd'hui, il y ait des préjugés, que ce soit sur les mangas, mais aussi que les lecteurs de mangas aient du mal à lire des romans en se disant « Ah non, mais il n'y a pas d'image dans les romans, moi je veux que des... je veux des images et voilà, je veux pas avoir un roman, un pavé et tout. » Non, on trouve que c'est dommage et on a envie d'une part que grâce au light novel de faire comprendre à un certain lectorat de romans que l'univers japonais, l'univers de la culture pop japonaise peut être vraiment très accessible à eux et peut-être qu'ils pourront commencer justement par ces romans et peut-être après se dire « Ah voilà, j'ai adoré le roman, je vais lire le manga maintenant. » Ça, c'est un des objectifs. Et le deuxième objectif, c'est de permettre à ces lecteurs de manga de passer plus facilement au format roman et de leur dire, vous voyez, vous avez adoré peut-être le manga de Sword Art Online, mais vous savez, il y a l'œuvre originale, c'est un roman. Donc, essayez de la découvrir et qu'ils découvrent, qu'ils se rendent compte tout simplement que, même si le pavé... même si ce pavé-là peut faire peur dans un premier temps, il n'y a pas d'image et tout... s'il arrive à le lire et se dire « Ah là là, j'ai réussi à le lire, c'est génial. En fait, ça ne me dérange pas qu'il n'y ait pas d'image. Je vais continuer à lire des light novels, mais après, plus tard, il se focalisera aussi sur les romans parce que la fantasy, c'est pas que dans les light novels. C'est aussi, c'est pas que propre aux japonais, c'est propre à tout le monde. C'est universel et c'est pas parce qu'on lit de la fantasy américaine ou française ou anglaise qu'on ne peut pas lire de la japonaise. Ça serait dommage de penser ça et c'est en tout cas l'objectif qu'on s'est donné, c'est de rassembler vraiment toutes ces cultures, tous ces lectorats et de dire voilà toi, c'est la fantasy, encore une fois c'est universel.
Oui, ici en venant aux Imaginales, c'est clair que le pont est fait entre les lecteurs davantage de fantasy anglo-américaine et les lecteurs de manga qu'on a moins ou d'amateurs de J-pop plus largement qu'on a moins l'occasion d'accueillir ici. C'était une très bonne initiative.
C'est aussi de permettre et peut-être qu'on va devenir un peu un porte-étendard justement de ces maisons d'édition qui sont un peu plus spécialisées dans la culture pop japonaise en leur disant vous voyez nous on est allé aux Imaginales, on est allé à Angoulême. Pourtant c'est spécialisé, on dirait pas qu'Angoulême aux Imaginales on parle de la littérature japonaise, mais nous on y est allé, on a été très bien accueillis. Pourquoi vous y allez pas? Pourquoi vous éditeurs de manga qui êtes les piliers pour certains de cette culture, vous n'y allez pas? C'est dommage, c'est pas parce que on vous dit que c'est spécialisé dans la fantasy occidentale que non, c'est pas vrai, il y a tous les lecteurs et c'est pas parce que vous êtes spécialisé dans la littérature japonaise que vous pouvez pas y aller. On espère aussi avoir ce rôle un peu de cobaye, forcément, parce qu'on teste, donc on est un peu cobaye, mais on espère aussi avoir ce rôle de porte-étendard et de montrer que il n'y a pas de limite à avoir. Quand on aime quelque chose comme la littérature, on peut aimer tout type de littérature de quelques coins du monde qu'elle puisse venir.
pour un décloisonnement des frontières de l'imaginaire.
Exactement, voilà. Ça peut devenir le nouveau slogan des éditions Ophelbe.
On s'était dit qu'on, avec Guillaume Cap, qu'on laisserait un petit peu de temps pour poser des questions à la salle. Et donc le moment est venu. Bon, il y a du bruit dans le à côté, mais j'arrive avec mon micro. Il y a de la question.
Ça marche là ?
Oui, ça marche.
Bon, alors c'est très intéressant, mais j'ai une petite question. Les éditions Ophelbe, est-ce que sont les filiales d'une autre maison d'édition spécialisée dans le manga, ou est-ce qu'elles sont venues comme ça, par génération spontanée ?
Alors en fait, les éditions Ophelbe sont vraiment c'est une maison d'édition indépendante. Hein, ça fait partie de la société qui s'appelle Ophelbe d'ailleurs. Par contre, le rapprochement qu'on a fait au début, c'est simplement parce que elles ont été créées. Elles ont été lancées par le directeur éditorial des éditions Taifu Comics et Ototo. Donc ce directeur éditorial qui est un grand fan d'animation japonaise, qui a décidé de se lancer dans les mangas donc il y a maintenant un peu plus de 12 ans, et qui à un certain moment, grâce notamment à ce marché du manga, à force de rencontrer les lecteurs, beaucoup de lecteurs, et notamment au moment où il a eu la licence de Spice and Wolf en manga, beaucoup de lecteurs lui ont dit: mais c'est génial que vous publiez le manga, mais nous ce qu'on veut c'est le light novel, quoi, c'est l'œuvre originale, quoi, c'est génial le manga, mais maintenant il faut que vous publiez le light novel. Donc là, le problème qu'il a eu, c'est que, il était au courant. Lui, en plus, voilà, vu que c'est un lecteur de romans, forcément, il aurait bien voulu, mais s'est posé plusieurs questions. C'est que déjà, c'est pas du tout le même marché, c'est pas le même métier non plus. Et publier des romans, des light novels avec un éditeur sous le label d'un éditeur de manga, ça aurait été très compliqué, parce que là, on aurait été estampillé directement manga. Donc il a mis cette idée en stand-by dans sa tête, et 2-3 ans après, il est rentré en contact avec donc l'éditeur Kadokawa Corporation pour la licence des mangas Sword Art Online. Et là, l'éditeur lui a dit: mais vous savez, Sword Art Online, c'est aussi un light novel et tout. Et il a dit: mais oui, je sais. Mais l'éditeur lui a dit: écoutez, moi je veux bien, mais il faudrait que vous réfléchissiez à éditer aussi le light novel. Il y a eu un déclic, et il a décidé en fait de créer une société avec donc une société Ophelbe pour lancer une nouvelle maison d'édition qui s'occuperait spécifiquement de light novel, donc avec une équipe dédiée au light novel, parce que tout ce qui est traduction, adaptation, correction, c'est un métier propre au roman. C'est pas du tout, c'est très compliqué pour un adaptateur, un correcteur ou un traducteur de manga de se lancer dans le light novel. C'est pas vraiment le même métier. Donc derrière ça, il a créé cette maison d'édition, il a créé cette société, donc c'est cette maison d'édition, et derrière cette société, c'est toujours lui le directeur éditorial. Donc il a deux sociétés, il est gérant de deux sociétés, mais il a mis une équipe qui est très personnelle pour les éditions Ophelbe, avec la particularité, il y a deux personnes en plus de lui qui travaillent à la fois pour donc Ototo et Ophelbe. C'est donc moi-même, de part, comme j'ai expliqué, parce que je fais ce pont entre les différents médias et entre ces différents formats, mais il y a aussi son fils, donc qui aurait dû être là aujourd'hui, mais il est malade malheureusement, rentré du Japon. Il a mangé quelque chose de pas bon, sûrement un sushi. Il est arrivé, et donc son fils est arrivé, et il est devenu donc directeur de collection des éditions Ophelbe. Et chez Ototo, il est également directeur de collection de Ototo. Mais à la base, vraiment, les éditions Ophelbe, c'est vraiment indépendant, c'est une autre société. C'est simplement qu'il y a des personnes qui ont... Qui travaille chez les deux.
Ototo, je ne connais pas du tout. C'est une revue japonaise alors ?
Non, Ototo, c'est une maison d'édition française.
De manga.
Ah, de manga, voilà. Oh. C'est qui publie des mangas basés très fantasy. Hein. Cette fois-ci, ça publie fantasy à la fois jeunesse et, pour reprendre le terme, young adult. Hein, aussi bien, ça peut être aussi bien pour les adolescents, enfants, adolescents, jeunes adultes. Voilà, c'est vraiment le lectorat d'Ototo à l'heure actuelle. Et après, par contre, chose importante à dire, c'est pas parce que des mangas vont sortir des adaptations manga de light novel, vont sortir chez Ototo, qu'elles vont forcément sortir en roman chez Ofeld. Là, c'est, là ça voudrait dire vraiment que les deux maisons d'édition sont liées. Non, c'est pas du tout le cas. Les deux maisons d'édition ont une ligne éditoriale qui leur est propre. Elles ont des choix stratégiques et éditoriaux qui leur sont propres. Et voilà, quand on a une licence en commun, on s'occupe de la mettre en avant de façon commune. Par contre, voilà, on est libre de chacun. Chaque maison d'édition est libre de ses choix.
Bon, on a encore deux questions, mais il va falloir répondre rapidement, oui. Guillaume.
J'avais une question en particulier. Vous avez parlé des magazines de prépublication,
oui.
Concernant donc les light novels. Mm. Effectivement, dans le manga, ils ont des rythmes de parution de 30 pages par semaine.
Exactement.
Et dans l'histoire, un découpage vraiment par chapitre.
Oui.
Est-ce que des fois avec des histoires qui avancent pas, qui créent des contradictions totales, mm-hmm. Est-ce que un petit peu ces travers de ce rythme de prépublication peut aussi se retrouver dans le light novel?
Alors dans le light novel, j'ai envie de dire oui, forcément parce que on peut pas publier un light novel en entier. Il y a plusieurs, mais après quand même c'est fait de façon un peu plus entre guillemets un peu plus propre dans le light novel, tout simplement parce que les chapitres déjà sont plus facilement découpables. Les parties en tout cas dans un light novel sont plus facilement découpables et dispatchables, on va dire, dans les magazines de prépublication. À savoir qu'aussi là où dans les magazines de prépublication de manga au Japon il peut y avoir peut-être une dizaine de mangas, une douzaine de mangas même dans certains cas, dans le light novel c'est pas le cas, c'est vraiment limité à 4-5 titres. Après tout dépend encore une fois de la maison d'édition qui publie le magazine de prépublication, mais voilà, c'est beaucoup, on a beaucoup plus de contenu en tout cas dans une prépublication de light novel que dans une prépublication de manga.
Une petite réponse en un seul mot. Les 4 romans qui sont sur la table sont disponibles sur le stand là-bas ?
Oui, ils sont disponibles sur le stand des éditions Ofeld. Celui-là n'est pas disponible. Il sortira le 30 juin. Alors pour la petite anecdote qui nous, au final, n'a pas vraiment été une petite anecdote, surtout pour moi, ça a été un peu le drame de ma semaine. Danmachi normalement devait sortir le 9 juin. Il devait sortir en avant-première aux Imaginales. On se faisait un plaisir de le faire d'ailleurs. Malheureusement pour nous, quand on a reçu les premiers exemplaires de chez l'imprimeur et qu'on a regardé, on a été horrifiés, c'est le cas de le dire, parce que il y a un problème de découpage de l'illustration sur le dos. Qui part sur le front, la première de couverture et la quatrième de couverture. Et chose un peu plus importante, c'est que les pages de couleur qui sont censées introduire le roman se retrouvent à la fin. Donc pour vous, après je suis conscient que pour certains lecteurs ça ne sera pas très important. Malheureusement chez nous on est un peu perfectionniste et en plus de ça on a des ayants droit qui sont encore plus perfectionnistes que nous. Donc on a été obligé de tout envoyer en réimpression. Malheureusement, donc on a ramené 2 exemplaires là sur le salon pour les montrer aux lecteurs, pour les montrer aussi à la presse, aux médias. Mais le premier tome de Danmachi sortira le 30 juin. Petite information, peut-être que certains d'entre vous le savent, s'ils nous suivent, les deux prochaines licences qui sortiront chez Ofeld. La première, c'est Durarara. Voilà, qui sortira le 12 septembre 2016. Donc le premier tome, il sortira dans la collection LN Light Novel. Donc un tome japonais est égal à un tome français. Donc Durarara, c'est un peu un melting pot de tous les genres. Hein. C'est un peu le titre, on va dire, un peu what the fuck de la collection LN Light Novel. Ça représente un peu toute la diversité du genre. C'est vraiment le titre parfait pour illustrer le phénomène light novel. Et son auteur est un peu comparé au Japon à Quentin Tarantino. Donc je vous laisse imaginer un peu l'univers de ces titres. C'est assez sympathique. Mais voilà, après je pourrais vous en dire plus après sur le stand quand vous voudrez. Et le deuxième titre qui sortira donc le 27 octobre 2016, c'est The Irregular at Magic High School. Donc The Irregular at Magic High School qui sortira dans la collection classique. C'est un mélange de fantasy et de science-fiction. Ça revisite la thématique de la magie, tout simplement. En fait, la magie devient une nouvelle technologie dans The Irregular at Magic High School. La magie est une nouvelle énergie. Ça devient un peu, ça remplace l'énergie solaire, ça remplace l'énergie nucléaire, voilà, c'est devenu l'énergie mondiale et on va suivre l'évolution d'étudiants qui sont dans une université, dans une école de magie et qui vont vivre tout un tas d'aventures. Donc après je vous parle école de magie, étudiants et tout, ça peut vous faire penser à certains titres très connus chez nous. On peut dire peut-être, allez, je vais utiliser de grands mots, mais j'ai envie de dire... C'est un peu mon objectif. On peut peut-être dire que c'est un espèce d'Harry Potter futuriste à la sauce japonaise. Voilà, c'est pour vous expliquer en
ça
très gros
envie,
l'univers des Irregular Arithmetic High School. Voilà.
Merci beaucoup Guillaume Cap, et puis vous le retrouvez donc sur le stand des éditions Ophelb.
Voilà, bulle du livre à l'entrée, hein. Dès que vous entrez, on est le stand sur la droite. Voilà. Merci à vous.
Merci.
Et puis bonne journée.